ces jeudis 29 juin et juillet qui approchent à grands pas, de nouveau un long congé qui s'annonce devant nous, ce congé de la fête du Canada qui s'en vient. Il faut dire que certains sont déjà en vacances et oui, la fin des classes, hein, qui s'est quand même terminée officiellement depuis une semaine. D'autres vont quitter dans le courant de l'été pour un repos bien mérité, mais il y a ceux aussi qui s'apprêtent à déménager, hein, c'est la grande migration annuelle si on veut. Quant à moi, ben, je vous convie aujourd'hui à notre rendez-vous quotidien jusqu'à 13h. Ici Chantal Lavoie, entourée d'une belle équipe et aujourd'hui des sujets fort intéressants, des conseils pour aller se balader, pour se déposer à travers le tourbillon de nos vies et aussi on va se faire raconter des histoires vraies. Bienvenue à Aime l'été! Et plus précisément, aujourd'hui, on reçoit l'auteur du livre Camping 101, Marie-France Bornet, qui est journaliste littéraire au Journal de Québec, qui s'y connaît en matière de camping. Elle a une foule de conseils pour nous afin que l'on puisse profiter pleinement de cette activité qui est très appréciée ici au Québec. Également des histoires vraies racontées par celles et ceux qui les ont vécues. En Fabulation sera présentée cet été dans différents arrondissements dans le cadre du programme du Conseil des arts de Montréal en tournée. Mais d'abord, nous allons retrouver une collaboratrice fort occupée, mais qui essaie de nous mettre sur la piste du mieux-être. Je vais accueillir dans les prochaines minutes Julie Châtelain, voilà, qui a été avec nous tout l'été l'an dernier. Alors, on espère la retrouver plus d'une fois au cours de cette saison. Alors, soyez donc avec nous durant cette prochaine heure. Voici Aime l'été. Et cela dit, oui, un autre épisode de smog aujourd'hui en lien avec ces feux de forêt qui ne sont pas prêts de s'éteindre, hein, même si la pluie peut ralentir la progression de ces feux. Mais assez saisissant de constater les conséquences, hein, de ces feux de forêt à travers l'Amérique du Nord, et ça se ressent même en Europe, paraît-il. Alors, des conséquences à bien des niveaux, mais aussi sur la qualité de l'air. Alors, on vous conseille de diminuer votre exposition à ces particules fines qui peuvent avoir des impacts, hein, sur la santé. Alors, restez plus à l'intérieur là, durant ces épisodes de smog. Écoutez-nous, quoi. Et puis, il y a cette présence de fumée, oui, ça peut être évidemment nuisible pour la santé. Ça, on le sait. On sait aussi que les feux, l'Auto-Québec, hein, les feux d'artifice à la ronde ont été annulés pour ce soir. C'était la toute première soirée de ces feux prévus au calendrier cet été. Alors sur ce, je retrouve à l'instant Julie Châtelain, notre chroniqueuse bien-être de l'été dernier, qui nous revient de façon ponctuelle cette fois. On a décidé de mettre la table en début de saison pour réfléchir à la façon de mieux se reposer, la façon de se ressourcer, d'envisager la suite des choses pour être mieux, plus épanouie et pour passer un bel été en même temps. Bonjour Julie!
Bonjour Chantal!
Bien heureuse de vous retrouver. Alors, ça fait plaisir.
Oui, moi aussi, je suis très contente. On va passer un autre bel été.
Ah, ben oui, parce que votre passion, c'est vraiment le mieux-être. Ça nous intéresse aussi. Je pense que tout le monde, hein. Et oui, vous vous intéressez beaucoup à l'humain. Évidemment, oui. Vous cumulez plusieurs années, Julie, dans le domaine de l'éducation spécialisée. Mm-hmm. Ben, on va se dire je vais essayer de te tutoyer, puisque après là, on sait quand même parler tout l'été dernier et puis bon, alors, puis on va se reparler de nouveau. Alors cet été, Julie, tu choisis de rigoler, de riposter, de recycler ou de rénover.
Oui, en fait, c'est une technique d'impact. J'aime ça utiliser ça. Évidemment, j'ai un bon parcours au niveau de l'éducation spécialisée et c'était une de mes forces d'amener la personne à avoir une technique qui va être comme plus facile, on dirait après ça, de mettre en pratique. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce fameux début de vacances qui débute là pour plusieurs personnes. Pas tout le monde nécessairement là, qui va avoir un 2 semaines, 3 semaines.
C'est vrai.
Il y en a qui vont prendre des fois juste un 3 jours, 4 jours aussi. Tu sais, ça peut être aussi intéressant.
Et Julie, certains travaillent plus aussi durant l'été, hein?
Ah, oh, ben oui!
C'est
oui,
mon cas!
Oui, moi aussi! Oui. Mais c'est pour ça qu'à travers tout ça, mais j'avais envie de parler de l'importance des 3 R. Mais finalement, je vais rajouter un 4e. Donc, c'est vraiment les 4 R. Mais c'est comment on peut aller chercher de l'équilibre à travers tout ça. Et ouais, que si on n'a pas 3 semaines de vacances, on peut quand même utiliser ces R-là le plus souvent possible pour quand même, au niveau de notre santé mentale, venir faire un effet positif.
C'est ça, récupérer et tout, se ressourcer, oui, comme on le disait. Alors, la philosophie des 4 R, là, on parle, ouais, de repos. de récréation, oui, de relation et retraite. Enfin, là,
exactement,
retraite, mais on va se comprendre. Là, on va, oui, tu vas bien nous le oui, cadrer, ce mot-là. Alors, commençons, oui, avec effectivement le repos. Comment on fait quand on est occupé?
Ben, exactement. Mais en fait, le repos, comment je l'ai décortiqué, là, le repos, c'est vraiment une absence de mouvement. Hein? C'est vraiment de dire, OK, là, je m'immobilise, je suis en arrêt, je suis en pause, détente. Donc, c'est toutes ces activités-là qu'on va faire où est-ce qu'on est vraiment en mode, OK, je m'en vais m'installer sur une plage, je fais de la lecture. Tu sais, on fait pas plein d'activités, là. On se repose. Mm-hmm. Parce que beaucoup de gens ont déjà de la difficulté, hein, parce qu'on est dans un mouvement perpétuel. Et même quand on veut se détendre, des fois, on ne se détend pas vraiment.
Non, non. Puis écoute, Julie, là, quand on a toujours notre téléphone cellulaire aussi à la main, ben, est-ce qu'on se repose vraiment? J'en doute.
Non. Non, c'est ça. Exactement.
On meuble le vide.
Oui. Et oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et on continue de stimuler notre cerveau. Et à ce moment-là, on n'est pas en vrai de vrai repos comme notre corps a besoin. Nos cellules ont besoin vraiment de se régénérer. Et on ne fait pas ça en faisant
du cellulaire.
TikTok
ouais, exactement.
Ou Facebook.
On ne fait pas ça en regardant les réseaux sociaux, bien sûr.
Non, non, exactement. Donc ça, c'est vraiment le repos. Alors, c'est quelque chose que même, je suis sûre que toi, tu peux déjà te dire, ah, est-ce que j'ai vraiment des beaux moments de repos dans ma vie ou pas tellement? Moi, je sais que c'est un grand défi, le repos.
Oui, ça peut être, tu sais, quand je suis très occupée, parfois, ben là, puis parfois, il faut que je me couche tôt, mais avant, je prends le temps d'aller marcher, mais pas marcher là pour me mettre en forme, là, on s'entend. Mm-hmm. Juste pour justement me déposer, marcher lentement, là, mais regarder, ouais, être contemplative autour de moi. Juste, c'est ça, me changer vraiment les idées, là.
Ah, bien ça, c'est vraiment une excellente idée. Parce que dans le fond, ça fait un lien avec l'autre axe, qui est la récréation. Là, on est complètement à l'opposé. Là, la récréation, là, c'est qu'on fait des activités plus au niveau comme divertissement, des loisirs. On peut se permettre de faire ces activités-là, mais qui vont quand même être destinées à nous détendre. Comme exemple, on va aller dans un spa. Donc, on va passer d'un spa à l'autre. Tu sais, donc, on fait une activité qui est organisée, mais est en mode détente. C'est vraiment une façon de se distraire. C'est aussi, moi, j'aime ça amener le côté de jouer, de dire, hey, moi, je m'amuse. Quand on est dans cette période-là, là, récréation, moi, c'est vraiment comme ça, je le vois. Mais on n'est pas, c'est pas en lien avec le travail, c'est vraiment en lien avec des activités. Comme exemple, ça peut être de dire que pendant l'été, on s'en va visiter des musées, ça peut être de dire on s'en va voir des spectacles, des festivals.
Et puis, voyager en soi, on voyage, mais le voyage n'est pas en soi toujours un repos dans le sens physique.
Non.
C'est-à-dire, c'est pas une détente nécessairement. On peut être très occupé en voyage, mais ça nous change encore là les idées complètement. Ça nous amène ailleurs. Oui. Alors ça fait du bien. Ça, c'est ressourçant aussi. Et là, on n'est même pas encore rendu dans les relations, là.
Non, non, ben en fait, les relations, ça fait un lien avec la récréation, parce qu'on peut faire une récréation tout seul, mais on peut faire une récréation avec des relations autour de nous. Donc, ça, c'est vraiment tous les rapports, les liens qui vont exister entre les personnes. Et ça peut être autant au niveau du travail, la famille, les amis, amoureux, amoureuses. C'est vraiment toutes ces relations-là qu'on va avoir et qui vont amener un équilibre au niveau de notre santé mentale, bien évidemment, parce qu'on le sait que c'est en fait un des éléments qui va le plus contribuer à une saine santé mentale,
ouais,
les relations.
Dirais-tu, Julie, que, par exemple, c'est sur certains travailleurs, par exemple, peuvent être un peu plus avantagés. Je pense à des gens qui, par exemple, sont des travailleurs autonomes. Bon, tout est relatif parce qu'on peut être très, très, très occupé puis manquer complètement de temps pour s'occuper de nous aussi.
Oui.
Là. Mais d'avoir, par exemple, des horaires un peu brisés, finalement, oui, l'horaire qui tue, là, c'est vraiment toujours cet horaire où on part le matin puis on revient le soir. Puis
oui,
toute notre journée, là, on n'a pas de... de moment pour se déposer, là. T'sais, on n'a pas des
Exact.
horaires brisés où on peut dire, OK, moi, j'ai un petit 2 heures devant moi, là, puis là, ben, je vais m'arrêter dans un café, puis tu sais, bon, je vais
Oui.
pouvoir relaxer un petit peu, là. C'est pas tout à fait,
Ah.
c'est ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont dans le milieu du travail qui sont peut-être un peu moins avantagés dans ce sens-là, oui.
Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi aussi, je trouve que cet horaire-là où est-ce qu'on se lève le matin, on est déjà, OK, bon, faut que je fasse une petite routine pour me préparer. Après ça, on est déjà en transport, on est en train de se préparer pour aller au travail. On fait notre journée de travail, on revient à la maison. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont rendues là, sont fatiguées, ils n'ont plus grande énergie là,
C'est sûr. Ceux
pour après
qui,
ça
bon, qui
faire.
font du
Ouais.
vélo, par exemple, pour se rendre au travail, déjà là, c'est un moment particulier où
Oui.
on a plus, on peut justement plus enfin, ventiler, façon de parler. Ben, pour les gens qui sont en voiture, c'est le fait, par exemple, de peut-être écouter certaines émissions de radio. Ça peut être une façon aussi de se détendre, de se ressourcer autrement.
Oui.
Alors, c'est peut-être un petit moment qu'on a à nous, peut-être dans le silence, en musique aussi, hein, ça peut être le moment où on prend du temps pour nous, en voiture même.
Ben oui,
Alors,
absolument,
tous les
mais
mo
je trouve.
autrement dit, Julie, toutes les occasions sont choisies, sont bonnes pour que l'on puisse pratiquer ce que tu viens de nous dire là.
Oui, ben en fait, ça demande un petit effort, là. On doit se mettre nous-mêmes à l'agenda parce que rapidement, on peut s'oublier.
C'est vrai.
C'est pour ça que j'amène la retraite, parce que la retraite, pour moi, c'est comme une petite coche de plus dans l'intériorité, de connecter avec moi-même profondément. Donc, la retraite, là,
Ouais,
c'est
ça
vraiment,
explique-nous, ouais, comment tu vois ça, toi.
ouais. En fait, la retraite, c'est de dire, OK, on s'en va vraiment dans un moment. Comme je dis, c'est des fois, ça peut être un 3 jours ou un 4 jours. On n'a pas besoin de partir pendant 2 semaines, 1 mois, faire Compostelle, là. Mais en fait, c'est un peu sur cette inspiration-là. Il y en a des fois qui vont dire, ah ouais, 3 jours, même ça, c'est difficile. Ça peut être une journée qu'on se consacre. Mais en fait, ce que ça permet, c'est vraiment d'amener un ressourcement profond parce que là, on va nourrir en fait tout ce qui est en lien avec qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie. C'est comme un moment où est-ce qu'on peut ralentir complètement et faire une introspection, prendre un temps pour dire est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je me sens bien centrée. Donc, on peut utiliser ça. Donc, des moments de silence, de la méditation. En fait, c'est vraiment des moments de solitude où est-ce que là, on est complètement sorti de tout ce qui est en lien avec le monde extérieur.
C'est ça.
La
Et là, tu ne
technologie, on
parles
met ça
pas
de
de, tu
côté.
ne, c'est ça, la technologie de côté. Et là, quand
Oui.
on dit, on veut juste bien situer, là, on ne parle pas de retraite, les gens qui prennent leur retraite, là.
Non.
C'est pas ça. D'ailleurs, toi, tu préfères le mot vivre une retraite, hein?
Oui. Exactement. Non, moi, je vois ça vraiment comme ça peut être de dire, OK, je m'en vais marcher dans le bois, dans les sentiers. J'décide de m'organiser une activité qui va me permettre de décrocher, de ralentir, laisser aller mes pensées et là, vraiment de sortir de cette espèce de tu sais,
De
tout le
tourbillon.
stress,
Ouais, c'est
ouais, tout
ça.
ce tourbillon, le stress du quotidien.
Donc, l'aspect retraite, c'est une façon plus de voir une pause un peu plus longue que ce qu'on vient de dire, que ce soit la récréation, que ce soit le repos,
Oui.
là. On parle évidemment c'est ça, d'une période un petit peu plus longue qu'on s'accorde, peut-être, que ce soit une journée quand même, mais une bonne journée. 2 jours, 3 jours, enfin, ça peut être dans le cadre d'une escapade. Et comme on le dit, bon, tu sais, on parlait autrefois des retraites fermées. Tu te
Ben,
souviens?
en fait, c'est un peu ça, l'inspiration, parce qu'il y en a qui vont, on va voir ça souvent passer, là. OK, bon, ben, une retraite, ça va être une retraite de yoga.
C'est
Ça
ça.
peut être aussi, comme exemple, Vipassana, qui est un endroit où est-ce qu'on va faire de la méditation pendant 10 jours. Bon, c'est un peu intense si on ne l'a jamais fait, mais c'est comme pas mal l'ancêtre de la retraite, ça, ou des temples, voyons, pas des abîmes, des endroits où il y a les moines, là.
Oui, bien sûr, oui, c'est ça, des endroits comme ça de réflexion. Là,
Oui,
on pense, bon, c'est sûr, les
oui.
moines comme à Saint-Jean-de-Matin, là, par exemple.
Oui,
Oui.
c'est ça, mais là, je cherche le mot, c'est pas abîme, abbaye, en tout cas.
Non, c'est ça, l'abbaye, oui.
Abbaye, c'est ça,
Oui.
exactement. Donc, mais ça, c'est des endroits où est-ce qu'on peut vraiment aller et complètement décrocher. Souvent, il y a un lien aussi avec l'alimentation. C'est sûr que si on est dans un mode de retraite, tout d'un coup, on va manger vert, on va manger le plus naturel.
C'est vrai. Prendre des bons jus de fruits.
Des jus de fruits, c'est ça. On va pas faire une retraite en mangeant trois fois dans la journée.
Une sorte de désintoxication d'une vie sociale trépidante, enfin d'un tourbillon, c'est ça. Eh bien, Julie, vraiment, ce sont de bons conseils et tu vas continuer comme ça de manière ponctuelle à venir nous parler de tout cela au cours de l'été. Ce sera très apprécié. En fait, je sais que tu as été, écoute, on essaiera d'en reparler. Parler aussi de ton parcours, ça m'intéresse beaucoup. Parler de toi, hein, parce qu'on parle beaucoup, d'être mieux dans sa peau et tout, mais juste parler de toi, tu as fait des choses fort intéressantes aussi durant la dernière année. Alors, peut-être en parler et puis justement... Il y a plein de choses à discuter. Alors, vraiment, je sais que, tu auras plein de projets aussi. Alors, on s'en reparle, Julie, et puis merci d'avoir été là aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup. Une très belle journée à toi.
Merci, Julie. À bientôt.
Merci, à bientôt. Bye-bye. Bye.
C'était Danny Placard qui chantait « Sleeping Bag ».
Oui, c'est une bonne idée, effectivement, pour introduire notre prochaine invitée, Marie-France Bornet, qui est journaliste littéraire au Journal de Québec, qui est aussi une campeuse d'expérience. Elle a écrit des best-sellers, là, notamment le camping, le Québec en camping, ainsi que le Nouveau-Brunswick en camping, Escapade américaine. Bon, bref, bonjour Marie-France.
Bonjour Chantal, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui.
Ben moi aussi, parce que en fait, vous adorez les road trips et puis le camping, vous l'avez fait au Canada, aux États-Unis. Enfin, vous avez beaucoup à nous dire. Vous avez, j'ai un livre ici qui s'appelle Camping 101. Alors, on en saura davantage, mais en fait, je veux vous connaître absolument parce que, bon, c'est votre façon finalement de voyager, d'aller sur la route, de partir et puis avec, enfin, quelle que soit la manière de voyager, tout ça, découvrir la nature, les paysages, la culture, l'histoire, les gens, la gastronomie. En fait, vous êtes une passionnée, quoi.
En fait, le camping, c'est pas nécessairement une fin en soi, c'est une façon de faire les choses aussi, puis un mode de vie un peu qui nous permet d'avoir accès à des endroits où on n'aurait pas accès normalement. Comme par exemple, si on veut visiter certains parcs nationaux, puis on veut y séjourner, il n'y a pas nécessairement des infrastructures hôtelières où maintenant il y a un petit peu plus de prêt-à-camper, ce qu'on appelle en anglais le glamping.
Ouais.
Mais souvent, le camping, c'est ce qui nous permet de faire une immersion dans cette belle nature-là. Puis de séjourner, puis de profiter de tout ce qu'on peut faire là-bas.
Ouais. Ça veut dire que vous l'avez fait jeune, j'imagine. Vous avez sans doute été initiée jeune.
Moi, j'ai été initiée dès le berceau. En fait, ma famille, c'était des voyageurs. Pour vous donner un exemple, moi, à 11 ans, j'étais au Grand Canyon, à Bryce, wow. Zion, Monument Valley. Donc, ça fait partie de mon ADN. Puis dans notre famille, c'est vraiment bien ancré aussi. Puis on a appris jeune à se débrouiller, on a appris jeune à s'adapter à des conditions différentes, à prendre des règles de vie différentes, à faire face à toutes sortes de situations. C'est très, très formateur hein, pour les
bien
jeunes.
Bien sûr, ça veut dire que vos parents aussi s'intéressaient beaucoup. Mais remarquez, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi un engouement ici au Québec là, pour le camping.
Ben, il y en a non seulement au Québec, mais il y en a partout en Amérique, il y en a en Australie,
parce qu'on a tellement de
partout dans le monde. Là.
Dès qu'il y a des beaux paysages autour de nous, je pense, ben, c'est sûr qu'aux États-Unis, avec tous les parcs nationaux là, qui sont enfin tellement nombreux, ici aussi, évidemment, bon, nous, peut-être parfois, il y a des conditions météo qui peuvent être un peu moins faciles hein, selon les saisons, mais enfin, et notre belle saison est quand même assez courte. Mais en tout cas, alors vraiment, c'est que ça a été une passion pour vous, mais l'idée, finalement, vous êtes journaliste. Bien sûr, vous avez écrit beaucoup dans le domaine des médias, tout ça, mais bon, qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur pour dire « moi, je vais écrire là-dessus »
En fait, mon premier livre, c'était Escapade américaine, hein, qui parlait des choses à découvrir au Vermont, au New Hampshire, puis dans l'État de New York, dans sa partie upstate. Puis ensuite, j'ai proposé aux éditions de l'Homme de faire le Québec en camping pour proposer une découverte différente de notre Québec via le camping, qui est une activité où on doit avoir un minimum de préparation. Il faut savoir où est-ce qu'on va installer notre campement pour aller visiter des choses. Puis ça n'avait pas vraiment été exploré beaucoup, ça.
Oui, cet aspect-là, ouais, c'est ça. On parle beaucoup des lieux, mais en fait, pour s'organiser, ça, c'est autre chose.
Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'était ça mon idée d'explorer 16 régions du Québec. En fait, je suis allée presque partout. Puis de voir de quoi ça a l'air, de donner mes commentaires à moi, mes descriptions, mon coup d'œil à moi. Puis ensuite, on a fait le Nouveau-Brunswick en camping, qui était une découverte aussi intensive de la province voisine, puis pour laquelle, d'ailleurs, je viens de gagner un prix national.
Oui, c'est ça, vous avez gagné des prix en plus.
Oui, puis le Nouveau-Brunswick en camping, en fait, je le recommande à tous ceux qui veulent voyager au Nouveau-Brunswick parce que c'est pas juste du camping qu'il y a dans mon livre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour ceux qui veulent voyager, faire des road trips, mais aussi beaucoup d'informations d'arrière-plan, je dirais, là, le background là, culturel, historique,
ouais.
Patrimonial, écologique aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Tu sais, le camping, c'est pas juste planter sa tente ou
non, c'est ça, c'est une manière de voyager. Mais en fait, c'est que, oui, on découvre d'une certaine façon, on s'ouvre de façon différente aussi. Quand on va dans les grandes villes, c'est autre chose. Mais quand on est en pleine nature, quand on découvre aussi, c'est de se mettre en relation parfois aussi avec des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement.
Il y a beaucoup de belles rencontres à faire, en fait. Puis la communauté des campeurs est assez conviviale de manière générale. Hein? Mm-hmm. Les gens vont jaser entre eux. Puis,
ils sont respectueux aussi.
Ben, ça.
Ben, c'est-à-dire qu'on l'espère, on le souhaite.
C'est à travailler, là, on va dire.
Il y a peut-être de l'amélioration, oui, peut-être, mais enfin, il y a de l'éducation toujours à faire, oui, c'est sûr.
Ben, il y a beaucoup de travail à faire en amont pour expliquer c'est quoi les principes du bon campeur, c'est quoi qu'on doit faire pour être respectueux des autres, de l'environnement. Toute la question de l'éco-responsabilité, là, ça devrait être
ouais,
à l'ordre du jour beaucoup, là. Ça, c'est important là, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, hein, il y a eu beaucoup d'abus puis beaucoup de problèmes. Ça a été non seulement ici, mais ça a été en Europe aussi. Mm-hmm. Ça a été dans les parcs nationaux américains, ils ont eu des gros problèmes. Ils ont dû fermer des sections de parcs nationaux complètes.
Parce que les gens ne savaient pas comment respecter la nature. Mais en fait, c'est que durant cette période-là, peut-être aussi que ça amenait, une clientèle qui n'avait peut-être pas autant l'habitude, finalement, de faire du camping aussi. C'est pas, y a vraiment les gens comme vous, comme bien d'autres, qui ont l'habitude du camping. Donc, je pense que là, c'est sûr que les clientèles peut-être se mélangent par moment. Et bon, il y a ceux qui n'ont pas l'habitude ou enfin qui le font de façon un peu en dilettante, si on veut.
Oui, c'est ça, mais Camping 101, mon dernier livre, là, ça a été vraiment écrit dans l'optique de c'est quoi l'ABC, là, c'est quoi qu'on doit savoir si on veut s'initier à cette activité-là pour que ça se passe le mieux possible pour soi puis pour les autres.
Ouais. En fait, c'est le secret, hein, c'est le secret justement pour maximiser notre expérience, profiter vraiment de ces instants de camping. Alors, je pense qu'effectivement, quand on est bien préparé, et puis là, ben, vous nous donnez plein de conseils. Vous savez, on va en parler tout de suite après la pause. Là, effectivement, on va vraiment aborder le sujet plus à fond parce que vraiment, vous nous avez gâtés. Je pense que je peux juste ouvrir le livre à peu près à n'importe quelle page et c'est toujours pertinent. Il y a toujours quelque chose qui nous interpelle. Vraiment, vous nous avez situé plein. En fait, vous avez pris des notes probablement tout au long de vos escapades parce que pour bâtir un tel livre, vraiment, pour avoir pensé à tout ce qui est contenu dans le livre, il faut le faire. Alors, on en parle après la pause, Marie-France, si vous le voulez bien.
Avec plaisir, Chantal.
Merci, à tantôt, là.
Aime l'été.
Et oui, Aime l'été qui se poursuit en compagnie de Marie-France Bornet. Et oui, on parlait de camping et puis là, on va aborder le sujet à fond, le camping 101, tout ce que vous devez savoir avant de planter votre tente ou de reculer votre VR. Alors oui, Marie-France, effectivement, c'est une mine d'informations que vous nous avez données dans ce livre-là. Alors là, écoutez, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'en fait, ça peut effectivement autant pour le véhicule récréatif, la planification, le matériel, toutes sortes de connaissances. Mais vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez certainement pris des notes tout au long de vos voyages, de vos escapades en camping depuis fort longtemps.
Bien. Dites-vous que bien des sujets abordés viennent de mes propres expériences, bonnes ou mauvaises,
oui.
De mes propres erreurs, de mes propres échecs, parce que c'est pas toujours idyllique, hein, puis il y a toujours toutes sortes de situations auxquelles on fait face, on se dit, ben voyons donc, j'aurais pu faire mieux, là, ou j'aurais dû savoir ça, ou ben comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça, ou bien qu'est-ce que je fais dans telle circonstance. C'est qu'on apprend, hein, puis plus on en fait, plus on apprend différentes choses. Puis moi, je me disais, ça serait tellement plus simple si quelqu'un nous transmettait ce savoir-là, puis ces connaissances-là. Tu sais, si on recule dans le temps, là, mettons là, peut-être 40 ou 50 ans, les gens allaient beaucoup en forêt où il y avait des campements ou des affaires comme ça, où ils allaient camper de façon très rudimentaire aussi. Puis les connaissances se passaient.
Se transmettaient.
D'une génération
oui,
à l'autre, ça se transférait. On savait comment partir un feu, on savait comment allumer une lampe au gaz, parce que c'est ça qu'il y avait dans ce temps-là. On savait comment s'y prendre pour reconnaître certaines herbes ou certaines plantes qui peuvent être poisons ou dangereuses. Puis ces connaissances-là se transmettaient, puis ça s'est comme perdu. Beaucoup perdu, ouais. Je dirais. Puis le contact avec la nature s'est perdu, si bien que quelqu'un qui n'a jamais été en forêt va se retrouver peut-être un peu paniqué au début. Parce que la noirceur, parce que les animaux sauvages, les bébites, parce que on n'est pas dans un environnement qu'on connaît, les bruits sont pas les bruits qu'on
connaît. Absolument, ça peut être comment faire un feu de camp, s'approvisionner en eau potable quand il n'y en a pas, là, c'est-à-dire c'est un problème. Quand il n'y a pas de toilette, tu sais, bon, quand on fait du camping un peu plus sauvage, là, il y a plein de choses à savoir, oui.
Il y a beaucoup de choses à savoir, puis dans l'optique de l'éco-responsabilité, parce que c'est un point majeur aujourd'hui. On fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Mmh. Le 50 ans, les choses se faisaient un petit peu plus broche à foin que ça, mais de nos jours, non, c'est pas ça. Il y a des règles pour ça. Il y a même Centrace Canada qui existe pour encadrer ça. Ça existe en anglais aussi, ça s'appelle Leave No Trace, ne laissez pas de traces. Il y a des principes qui ont été mis en place pour le respect de l'environnement, pour le respect des autres, puis pour permettre de continuer à avoir ces ressources-là, parce que les
pour pouvoir continuer
les
à faire,
c'est ça,
à faire ce genre d'activité, oui.
Si on détruit la ressource, on n'est pas plus avancé.
Tout
là.
À fait.
Puis pour que l'expérience soit agréable, ben vraiment, Chantal, ça prend de la planification, ça prend des choses qu'il faut savoir d'avance. Il faut avoir le bon équipement, il faut savoir s'en servir. Ça ne sert à rien d'avoir la meilleure tente du monde si on n'est pas capable de l'installer.
Tout à fait.
Puis si on n'est pas capable de faire partir notre réchaud, si on n'a pas pensé qu'il n'y avait pas d'eau potable puis qu'on n'a pas ce qu'il faut pour la purité.
Parce que mauvaise organisation, ça peut vous gâcher le voyage là, très rapidement. Là. Ouais.
Extrêmement rapidement. Puis ça peut tourner au vinaigre aussi. Rapidement, dans le sens où les dangers sont réels, là, puis aller jouer dans l'herbe à puce, là, c'est pas fantastique le résultat. Là.
Non, tout à fait. Rencontrer un animal aussi, quoi faire. Alors, c'est tous des conseils que vous nous donnez finalement au fil de la lecture. Il y a plein de choses. Par exemple, hein, vous parlez pour les gens qui conduisent, par exemple, un VR. Les gens les haltes routières, savoir toutes sortes d'informations liées à ça. C'est sûr que quand on va en région, les haltes routières sont moins nombreuses. Les stations d'essence aussi, pour ceux qui sont en VR, justement, c'est sûr que s'assurer que les stations d'essence soient ouvertes aussi, parce que là encore, plus on va loin, les stations d'essence peuvent être fermées le soir. Enfin, il y a plein de choses à savoir, oui. Ça a l'air anodin, mais finalement, quand on lit le livre, ça ne l'est pas du tout. Tu sais, là, tu dis, OK, oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça. Puis en fait, on dit, Camping 101, tout ce qu'il faut savoir avant de planter sa tente puis reculer son VR, puis on pense que c'est pour les néophytes, les gens qui en ont jamais fait. Mais moi, je dirais que les habitués là, gagnent aussi à me lire parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. La preuve, c'est que moi, j'apprends puis j'ai appris beaucoup aussi en écrivant le livre. En approfondissant certaines questions dedans, tu sais. Puis moi, je me mets à jour régulièrement. Là, je suis l'actualité par rapport à ça. Je suis au courant des nouveautés. Je sais comment les règlements sont modifiés, les nouvelles pratiques, les nouvelles façons de faire. C'est que en fait, même les habitués là devraient rafraîchir leurs connaissances parce que camper en 2023, c'est pas comme
c'est pas comme avant.
1975, là.
Absolument, vous avez tout à fait raison.
Ben différent là. Puis il y a les grandes lignes sont les mêmes là, mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui gagneraient à rafraîchir leurs connaissances parce que j'en vois de toutes les couleurs là.
Oui, c'est ça. Puis effectivement, les plus jeunes aussi, finalement, qui ont moins l'habitude. Et puis, c'est ça. Puis là, il y a toutes sortes d'autres façons de camper. Écoutez, je fais juste, comme je vous dis, ouvrir le livre à n'importe quelle page. Là, je vois « limiter le bruit ». C'est ça, respecter les heures d'arrivée, de départ, respecter le terrain des autres. Alors, beaucoup de choses, finalement, comme vous dites, rafraîchir notre mémoire là-dessus, là. Et puis, c'est ça, bon, il y a des sujets liés aux animaux, bien sûr, très intéressants. Les plantes toxiques, comme on dit, les caprices de la météo. Alors, vraiment, c'est ça, là. Bon, s'il n'y a pas de douche, qu'est-ce qu'on fait? On parle des toilettes portatives. En fait, c'est vraiment des choses qui, à la fois, sont élémentaires, puis auxquelles, des fois, on ne pense pas. Quel réchaud choisir, par exemple? Oui, c'est ça.
Il y a des petites choses aussi, comme, mettons, par rapport au feu de camp. Tout le monde, plus ou moins, sait comment allumer un feu de camp, mais est-ce que vous savez l'éteindre de façon sécuritaire?
Ah, ben voilà.
Est-ce que vous avez téléchargé l'application de la SOPFEU sur votre téléphone pour avoir les alertes en direct? On l'a vu cet été, là, à quel point c'était crucial et important de savoir ça. C'est des petites choses, des fois, mais qui font en sorte que, aussi, on prend confiance en soi, dans le sens où plus on sait ce qu'on fait, puis comment le faire, puis comment agir dans telle ou telle circonstance, ben plus les chances sont grandes d'avoir une expérience extraordinaire. Là.
Absolument. Ça peut être aussi bien, bon, comment conserver les aliments, tout ça, comment cuisiner les aliments, mais y a plein vraiment de sujets intéressants. Puis là, en fait, c'est que l'idée aussi, c'est que, vous savez, on veut sortir souvent des sentiers battus. Alors, c'est là qu'on prend parfois, certains vont prendre plus de risques, vont aller dans des endroits plus isolés, justement, et en se disant, bon, bon parce que t'as un véhicule motorisé, t'as une roulotte, enfin, qu'importe, là, comme je vous dis, ou c'est une simple tente, c'est pas compliqué, mais ça peut nous amener à prendre des risques. Et puis, effectivement, quand on n'est pas préparé, ça peut être, effectivement, causer de sérieux maux de tête, ouais.
Bien, plus que ça, là, il y a des opérations de recherche et sauvetage qui sont organisées parce que des gens avaient mal planifié un séjour dans l'arrière-pays, par exemple, ou bien il survient une blessure puis les gens ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à tenir en compte. Puis je pense que des fois, entre le rêve puis la réalité, là, entre les deux, là, il y a une préparation. Puis les gens qui sont sérieux, ils vont la faire, cette préparation-là. Mm-hmm. Ils vont s'informer, ils vont connaître les règles, ils vont savoir comment faire un itinéraire, en laisser une copie à une personne responsable au cas où ils sont pas revenus à l'heure puis au jour où c'était prévu. En cas de pépin aussi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a les papiers d'assurance qu'il faut? Si on traverse du côté américain,
il y a beaucoup
d'affaires à savoir. Là,
tout à
puis,
fait.
Plus on en sait, ben
mieux c'est.
Mieux c'est, mais aussi, c'est comme la loi de Murphy. Hein. Si on a tout préparé, là, ben, tout va bien aller, mais si on a oublié une affaire, là,
ça risque de déraper. Tout à fait. Alors, peu de place pour l'improvisation, finalement. Alors, on lit votre livre. C'est passionnant, c'est intéressant. C'est ça, on apprend plein de choses. Et puis, je pense que vous aidez à nous préparer mieux pour avoir de belles expériences de camping cet été et dans l'avenir aussi. Écoutez, Marie-France Bornet, je conseille à tout le monde de se procurer Camping 101, tout ce que vous devez savoir avant de planter votre tente là, ou encore de reculer votre VR. Qu'importe la façon de camper, là, tout est là, tout est dit dans ce livre. Merci infiniment d'être venu nous visiter.
C'est mon plaisir à moi. J'espère que les gens vont passer un agréable été et qu'ils vont vraiment profiter à 100%
ouais. De et on se croise les doigts. Ben, je rappelle, j'en ai parlé encore tantôt, là, les fameux feux de forêt, bien sûr, la qualité de l'air là, qui n'est pas au rendez-vous. Et puis, pour les amateurs de camping, c'est sûr que c'est extrêmement décevant présentement. Là, c'est pas simple, tout ça. Alors, en tout cas, de toute façon, ce sera autre chose à un autre moment. Et puis, ben, en tout cas, merci beaucoup, Marie-France. Ça a été un plaisir.
Un plaisir pour moi aussi, Chantal.
Bien, à bientôt!
Bon été!
Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées, je les raconte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer, car du fond de mon cœur, c'est vous qui parlez. Mes heures, mais surtout, je sais vous écouter parler de tout.
tout au long de mes rêves. Où chaque fois que je m'arrête à penser, on me parle à l'oreille du courage, de tout ce qu'il faudrait changer. Mais de l'autre j'entends qu'on préfère rester dans son coin. C'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air. Que c'est que je vais chanter si on s'y laisse aller?
Paul Pichet, moi je raconte des histoires.
Ah, ben tiens, oui, on va s'en faire raconter des histoires. J'accueille Juliana Léveillé-Trudel. Bonjour.
Bonjour.
Directrice artistique d'Enfabulation. Alors, évidemment, vous allez nous décrire ce que c'est, juste pour le mot, là, ça vaut la peine. Alors, bien sûr, vous êtes vous êtes fondatrice des productions de Brousse et vous êtes une romancière, vous êtes une femme de théâtre, enfin, vous êtes bien occupée. Vous nous faites partager de belles expériences théâtrales cet été dans le cadre du CAM, enfin, le Conseil des arts de Montréal en tournée.
Oui, ben j'aime beaucoup les mots, comme vous pouvez peut-être le deviner. Puis Enfabulation, c'est un projet qu'on mène depuis 2017 avec l'organisme Les Productions de Brousse. Donc, et le concept est très simple. Ce sont des invités qui viennent raconter une histoire vraie qui leur est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires, pour à peu près 10 minutes. Sur un thème donné. Donc, on retourne vraiment à la base, l'idée de raconter une histoire, de se faire raconter une histoire, mais la particularité, c'est qu'elles sont vraies. Donc, ce sont des histoires vraies.
Donc, ce ne sont pas des conteurs, c'est pas des...
Non, c'est sûr, c'est un peu dur à faire comprendre aux gens, parce que quand on pense souvent à conte traditionnel ou à la Fred Pellerin, mais c'est pas ça du tout, ça serait plus proche un peu d'un monologue théâtral, mais on veut que les gens soient eux-mêmes, on veut pas qu'ils jouent un rôle, on veut vraiment qu'ils racontent l'histoire comme ils l'ont vécu, mais c'est quand même un texte qui est travaillé énormément au préalable, donc on a des mentors, des écrivains professionnels qui travaillent chacun des textes très très près avec les gens qui vont raconter l'histoire. Donc, ce qui fait que ce qu'on présente sur scène, c'est un objet d'art, c'est travaillé, c'est un texte littéraire,
littéraire c'est ça.
Oral, mais c'est pas juste une improvisation.
C'est pas une improvisation, tout à fait. Oui, c'est pas n'importe qui arrive sur scène et qui raconte comme ça. Enfin, ce sont des gens quand même qui peuvent très bien, qui ont bâti quand même un texte intéressant qui est quand même structuré, qui fait que l'expérience aussi est maximisée finalement pour le spectateur. Là, vraiment, ça raconte quelque chose là, et ça vient nous toucher en même temps, oui.
Oui, exactement. Puis des fois, les gens pensent ça parce que bon, ça peut parfois être très drôle, mais ça peut aussi être plus sérieux. Donc, il n'y a pas la pression, c'est pas du stand-up, c'est pas la pression de faire rire absolument. C'est vraiment l'idée de nous faire vivre toutes sortes d'émotions à travers une expérience vécue. Puis je pense que c'est le fait qu'on sait que la personne devant nous a traversé cette expérience-là elle-même, qui fait qu'on est encore plus touché, je pense, que si on était au théâtre, parce qu'on sait que cette personne-là qui est devant nous l'a vécu et elle le partage avec nous. Donc, ça crée des moments assez touchants. touchant, assez magique. Je dirais que j'ai rarement vu dans
d'autres types. C'est ça. Donc, il y a une vraie histoire derrière tout ça. Mais justement, ben, vous allez nous présenter, on en a un extrait. Alors, on va entendre une enseignante hein, qui enseigne le théâtre dans une école qui accueille, je pense, des immigrants, des jeunes, enfin, qui
oui,
viennent de partout.
Oui, en classe d'accueil.
Voilà. Alors, écoutez, on va en écouter un extrait, puis vous nous raconterez après.
Oui, avec
ça m'avait mis aussi en face d'une réalité avec laquelle j'allais devoir jongler toute l'année les explications. Lorsque je proposais une activité, d'abord, j'expliquais en français, posément. Puis, dans mon anglais, qui est très, très approximatif, je faisais beaucoup de mimes. J'ai jamais autant fait de mimes que cette année. Ensuite, Jana traduisait en farsi à Armita. Puis, Chen traduisait en chinois à Il. Et il faut savoir que Chen est un petit garçon qui parle beaucoup. Ce qui fait que, quand moi, je disais une phrase en français, après, il y avait toujours un temps où on se regardait avec les enseignantes puis les autres élèves parce que ça lui prenait 5, 6, 7 phrases en chinois. J'ai jamais su ce qu'il lui avait dit.
Ah, là, c'est très drôle, mais c'est ça. Alors, vraiment, là, je pense que ça situe bien. Les gens vont comprendre ce que c'est. Et puis, effectivement, c'est comme ça pendant combien de temps à peu près que ça dure, là?
Bien, les histoires durent entre 10 et 15 minutes. Puis, normalement, dans une soirée classique, spectacle en fabulation, on a 6 invités. Donc, qui viennent et on a une entracte, donc une première partie avec 3 invités, une deuxième partie avec 3 invités. Mais là, avec le camp en tournée, on fait une formule un peu plus courte. Donc, les coups de cœur, c'est-à-dire qu'on est retourné chercher dans nos histoires chouchous du public depuis nos débuts. On a sélectionné pour des formules où c'est seulement quatre histoires, donc un spectacle qui tient en une heure. Donc, c'est parfait pour l'été, pour la découverte. Les gens, s'ils ne sont pas certains, ben, ils savent qu'ils viennent passer une petite heure avec nous. Donc, ça se fait très bien. Donc, l'extrait qu'on a entendu, c'est Anne Bigard, qui est enseignante en théâtre, qui raconte son expérience dans une classe d'accueil. Donc, l'histoire d'Anne, on va pouvoir entendre au prochain spectacle, le 3 août, la maison Brignon de la Pierre à Montréal-Nord. Parce que comme c'est le camp en tournée, on fait un peu le tour de l'île.
C'est ça. Donc, en fait, la meilleure façon de savoir où vous produisez, c'est est-ce que c'est d'aller sur votre site, les productions La Brousse?
Le site c'est enfabulation.ca, vous pouvez le consulter. Vous pouvez aussi consulter les réseaux sociaux qui sont toujours très à jour avec les prochains spectacles, donc la page Facebook d'enfabulation ou la page Instagram. Donc, c'est les meilleures façons d'être tenu au courant. Et aussi, par notre site web, il y a moyen de s'abonner à l'infolettre. Donc, on envoie régulièrement les nouvelles qui expliquent ce qu'on fait, où on est. Donc, c'est ça, on a entamé la tournée dernier à la place de la création dans l'arrondissement de Marie. Puis notre prochaine date est au mois d'août. Donc à Montréal-Nord, on va se promener comme ça. Je vais avoir en tout, on fait 6 spectacles d'ici à février avec les coups de cœur, donc la formule des histoires favorites. Et puis à l'automne, on espère relancer une prochaine saison, une 7e saison avec des histoires originales donc qui n'ont jamais été entendues encore.
Oui, je comprends, parce que c'est ça. Donc, comment vous les recrutez, ces gens-là?
Bien, ça a été tout un défi, parce qu'au début, moi, quand j'ai lancé le spectacle, je me suis inspirée d'un spectacle en anglais, parce que c'est très populaire dans les milieux anglophones. Moi, j'avais jamais entendu parler. Ça s'appelle Confabulation. Donc, c'est un autre spectacle montréalais, mais en anglais, qui font ça depuis une quinzaine d'années.
Ça s'appelle, on appelle ça des storytelling.
C'est ça. Donc,
c'est une tradition anglaise, oui.
C'est ça, c'est très connu dans les milieux anglophones. Moi, j'avais jamais entendu parler. Et donc, quand j'ai découvert, je me suis dit, mais je veux faire ça en français. Mais au début, c'était très dur de recruter des gens parce que, justement, la plupart des francophones ne connaissaient pas ça. Elles se demandaient un peu qu'est-ce que c'est. Alors, au début, j'avais beaucoup de gens, soit des personnes bilingues qui étaient assez à l'aise en français pour venir faire une histoire en français, ou des francophones qui eux-mêmes avaient déjà fait performer à Confabulation. Puis, tranquillement, avec chaque spectacle, mais on faisait un peu plus connaître la formule, donc là, on se faisait connaître. Puis, ce qui est fantastique aussi dans le spectacle, c'est que parfois, la prochaine personne qu'on va voir dans le prochain spectacle, ça peut être quelqu'un qui est assis dans la salle et qui se rend compte, « Oh mon Dieu, j'en ai une histoire, moi, à raconter. »
Oui, oui.
Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut voir normalement en théâtre ou en danse, où on se dit pas, « Ça y est, la prochaine fois, c'est moi. » Mais nous, ben, c'est sûr qu'on essaye toujours d'aller vers des gens qui ont les mots comme profession, donc soit des écrivains, des journalistes, des comédiens, mais on a aussi toujours une place pour des gens qui ne font pas nécessairement ça dans la vie, mais qui ont une très bonne histoire à raconter et qui ont envie de relever des défis, défi parce qu'on pense qu'avec notre accompagnement aussi, le mentorat, on est capable d'amener même des gens qui sont pas professionnels
dans le domaine,
on est capable. Oui, on est capable de les amener à un niveau. Donc chaque spectacle, souvent, il y a une ou deux, souvent une fois par spectacle, il y a une personne qui n'est pas du tout dans le domaine, mais qui a vraiment une histoire à raconter, qu'on juge toujours la peine.
Qui se découvre finalement de nouveaux talents. Enfin, c'est ça, il y a des conteurs naturels, des gens qui ont...
Exactement.
Qui finalement ne font pas du tout un métier comme ça, public, ou qui n'ont aucun lien avec le théâtre, mais finalement qui sont de très, très bons conteurs néanmoins, oui.
Oui, exactement. Donc, on en a tous dans notre entourage, des gens qui ont dit, mon Dieu, lui, elle, il aurait pu être comédien, il aurait pu être humoriste, parce qu'il y a toujours des péripéties à raconter. Mais nous, c'est un peu ça, on dit, ben voilà, on la donne la place. Puis c'est ça, grâce au mentorat, on pense que beaucoup de gens, moi je crois que tout le monde est potentiellement un écrivain, parce qu'on a tous des expériences à partager. Il suffit d'avoir vraiment envie de s'asseoir et de faire le travail d'écriture. Moi, je pense que ça nous permet d'entendre des voix qu'on n'entend pas d'habitude. Donc, nous, c'est très important pour nous aussi de faire de la place à toutes sortes de voix, toutes sortes d'expériences, toutes sortes d'histoires.
Tout à fait. Et puis là, ben, en même temps, bon, c'est vraiment dans le cadre, c'est ça, du Conseil des arts de Montréal en tournée. Alors, intéressant aussi dans des lieux différents. Et puis, bon, vous promenez à travers les différents arrondissements. Mais en fait, Juliana Léveillé-Trudel, bon, vous avez fondé aussi les productions de Brousse. Alors ça, c'est une chose. Vous avez plein de projets liés à ça. Mais vous avez, sur le plan personnel, vous êtes une auteure très connue, là, quand même. C'est-à-dire que vous avez... Non, mais vraiment, mais c'est... Ben, très connu dans le sens que, ben écoutez, il y a quelques jours, vous étiez suggéré, votre nouveau livre, enfin, était quand même suggéré par une chroniqueuse d'une station télé, là, pour comme lecture d'été, là, votre nouveau roman, finalement, votre roman le plus récent.
Ah, bon, mais voyez, vous me l'apprenez.
Ah, ben c'est ça, mais finalement, bon, parlez-nous justement de votre travail d'auteur, là. Vous avez quand même, vous en êtes à votre combien, vous avez écrit combien de romans, là, jusqu'ici?
J'ai publié deux romans.
C'est le deuxième, là, maintenant, hein, c'est ça?
Oui, le deuxième, on a tout l'automne qui est sorti, en octobre dernier chez La Peuplade. Le premier, c'était Mérite, qui était sorti en 2015 aussi, ouais, chez La Peuplade. Donc, oui, deux romans. Je suis aussi en travail sur une pièce de théâtre et puis j'écris du livre jeunesse aussi. Donc, avec mon conjoint, on co-écrit des albums. Donc, on a deux albums qui sont sortis, « Comment attraper un ours qui aime lire » et « Voyage de nuit à la Bibli ». Puis, il y en a aussi un troisième qui s'en vient l'année prochaine. Donc, j'ai toujours écrit, mais ça a été long avant que je me rende compte que ça pouvait être un métier. Moi, j'ai grandi vraiment à la campagne, dans un tout petit village dans les cantons de l'Est. On n'avait pas souvent de visites d'écrivains qui venaient à l'école ou des choses comme ça. Alors, j'adorais lire, je dévorais tous les livres de la bibliothèque, mais on dirait que ça a été long avant d'allumer que peut-être que c'était possible d'en faire un travail. Puis, mais c'est vraiment avec la publication du premier roman, Mirlite, qui était basé sur mon expérience de travail au Nunavik. On en revient un peu comme dans sa population. C'est quand on sent qu'on a une expérience, une histoire à partager, puis on a envie de le faire. Mais c'est un peu ce que j'ai fait avec mon expérience très, très marquante de travail au Nunavik. Alors, je me suis dit, ah, tiens, peut-être que je pourrais en parler, puis ça a donné un premier roman, puis ensuite, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que j'aime faire le plus au monde, écrire. Donc je vais continuer. Puis avec, en fait, c'est intéressant, ça vient complémenter, si on veut, mon travail de romancière ou de dramaturge, parce que le fait d'aider tellement de monde à structurer leur histoire, parce qu'on c'est toujours plus facile de voir dans l'histoire des autres. Hein. On a notre propre travail, on est trop collé dessus,
mais
le fait de voir les histoires des autres, de comprendre justement plus la structure, comment on raconte, dans quel ordre, ça m'a beaucoup aidé, moi, dans ma propre pratique personnelle. Donc, vraiment, c'est comme un parfait combo, là.
Oui, c'est ça. Vous avez vraiment, vous avez tout réuni, vos talents. Et puis, c'est sûr que, bon, votre premier roman, apparemment que vous l'avez pondu d'un seul coup, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment, ça a été, c'est sorti tout seul, finalement. Tandis que le deuxième, qui est un peu une suite, parce que votre personnage revient dans le deuxième, là, et c'est bien ça. Donc, le deuxième a été peut-être un peu plus difficile. C'est toujours le même principe, hein, nos premières œuvres, quand on a du succès, ben, évidemment, après ça, on se retrouve devant la page blanche pour le second, et puis, bon, ben, on a des doutes. On est, j'imagine, on est plus tourmenté.
Oui, bien, quelqu'un m'avait dit, mon premier livre, je l'ai terminé, j'avais 29 ans, puis quelqu'un m'a dit, mais dans le fond, c'est que ça t'a pris 29 ans à l'écrire parce qu'on accumule des expériences jusqu'au point où on l'écrit. Puis ensuite, ben on peut pas attendre 29 autres années, ou ben on pourrait, ça ferait pas beaucoup de livres. Donc là, il faut aller vraiment puiser plus loin. Puis oui, il y a comme aussi, je pense qu'il y a une perte d'innocence, parce que moi, le premier, j'ai écrit comme je pensais, c'est sorti comme ça, mais j'avais pas trop réfléchi à comment on écrit, comment on structure, c'est juste un peu arrivé comme ça. Puis dans le deuxième, c'est comme si cette espèce de coup magique ne peut pas fonctionner deux fois. En tout cas, pour moi, il n'a pas fonctionné deux fois. Donc, je trouve que j'ai plus de mérite pour le deuxième, parce que j'ai vraiment appris le métier, je trouve, avec le deuxième. C'est peut-être ça dont je suis le plus fière, au-delà du livre, c'est tout l'apprentissage qui est allé avec le livre, parce que j'ai l'impression de m'être un peu, et pas toute seule, mais avec des amis aussi, des amis écrivains qui m'ont lu, qui m'ont aidé.
C'est
ça. J'ai l'impression de m'être un peu donné un cours d'écriture à moi-même.
Bon, ben écoutez, ça a été un plaisir, Juliana Léveillé-Trudel. Alors, on n'oublie pas En Fabulation, vraiment une belle découverte à faire. Et puis, ben merci, et puis bonne lecture avec vos romans aussi à tous. Alors, et puis, ben, je souhaite à tout le monde une bonne journée parce qu'on termine l'émission ici. Alors, on se retrouve demain, nous, entre midi et 13h, ici Chantal Lavoie, et passez une excellente journée.